France Inter.
Le journal Florence Paracuedos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Ils sont toujours à la une ce matin, toujours sur les routes. Les agriculteurs qui se rapprochent de Paris et de Lyon, pas convaincus par les dernières annonces de Gabriel Attal. Nous sommes sur l'A6, entre blindés de la gendarmerie et tracteurs dans un instant, et puis avec des automobilistes qui commencent à se lasser du mouvement. Désmicardiser la France, objectif de Gabriel Attal, lancé hier dans son discours de politique générale. On verra ce qu'en pense la CGT.
Et à 8h20, ce sera le grand entretien de la matinale. Bonjour Léa Salamé.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Notre invitée tout à l'heure.
Elle a été la grande surprise de ce remaniement, la prise de guerre à la droite LR. Nommée ministre de la Culture, elle nous dira quelle ambition elle a pour son ministère et pour l'audiovisuel public. On reviendra aussi évidemment avec elle sur le discours de politique générale du Premier ministre, Rachida Dati. Elle invitée du 8h20.
Et le discours de politique générale, on en débat également à 9h05 avec Nathalie Chuc, Vincent Martin et Patrice Duhamel.
Bête et méchant, on vous racontera d'ici là l'histoire de ces deux hommes au tribunal aujourd'hui pour avoir volontairement poussé des cyclistes avec leur voiture sur les routes de Gascogne, au moins 12 victimes à leur actif. Nous sommes à Pékin sur les chantiers abandonnés du promoteur liquide Evergrande et puis en bateau avec Thomas Coville sur l'ultime challenge et bien bien loin du silence de la mer.
France Inter.
Pas de quoi faire décamper un agriculteur. Il n'y a qu'à regarder la carte routière pour constater que le versement rapide des aides de la PAC et les mesures imminentes annoncées hier n'ont eu aucun effet sur la mobilisation agricole. Les tracteurs se rapprochent de Paris sur la 13 à l'ouest, sur la 10 au sud et sur la 6 à moins de 5 km de Rungis. Des blindés de la gendarmerie sont donc positionnés depuis hier soir du côté de Chilly-Mazarin. Bonjour Valentin Winato.
Bonjour.
Vous y êtes, alors décrivez-nous la scène, ce face-à-face.
Oui, Florence, des blindés, mais en même temps, on n'arrête pas des tracteurs avec des Clio. Ça, ce sont les mots des policiers à qui j'ai posé la question en arrivant. Le décor est planté, vous l'avez compris. Comprenez que si toutefois la petite cinquantaine de tracteurs présents ici décidaient d'avancer encore un peu plus vers la capitale, ils seraient stoppés. Les blindés sont positionnés à 100 mètres de là, en direction de Paris, avec 5 à 6 fourgons de policiers. Mais pas de quoi impressionner les agriculteurs toujours déterminés et un brin moqueur au réveil.
Oh, c'est des voiturettes, hein. c'est comme l'auto-tamponneuse, c'est la procédure, hein. Nous ça nous fait pas, c'est ni chaud ni froid. Ça avec les tracteurs, ils se rendent pas compte, mais on monte dessus, c'est des crêpes. Hein. On les pousse, ils vont même pas comprendre.
Vous pensez que ça va pas vous arrêter ?
Non.
Ouais, des agriculteurs toujours motivés, vous l'avez compris, malgré la nuit courte, 2 à 3 heures, pas plus. Mais c'est pour les plus chanceux seulement, eux qui ont dormi dans leur tracteur pour certains, sur des bottes de foin et sacs de couchage pour d'autres. On sera là minimum jusqu'à la fin de la semaine, disent-ils. Et puis dans les rangs, ce matin au réveil, on pense déjà au salon de l'agriculture, fin février, qui pourrait, selon leurs mots, être le point d'orgue de la contestation.
Valentin Winato avec Benjamin Reyes sur l'autoroute A6 qui jouxte aussi l'aéroport d'Orly. Quant à vous, William Delesseux, vous êtes du côté de l'A10, fermé sur près de 20 km ce matin à partir du péage de Saint-Arnoult. Vous avez donc pris la Nationale 104, où les automobilistes commencent à trouver le mouvement un peu long.
Tout le long de cette route de contournement, des panneaux indiquent et rappellent que l'A10 est bel et bien inaccessible. Pour le moment, la circulation est dense, mais pas d'embouteillage massif. À la station-service, en bordure de cette nationale, pause café. Pour Julien, il travaille dans l'assainissement.
Ça change pas trop d'habitude, on dirait même que c'est un peu plus fluide. Les gens doivent s'habituer, s'adapter. Comme on travaille sur toute l'île de France, on est obligé d'emprunter les gros axes, donc on est un peu tributaire de ces blocages. On comprend le mouvement maintenant. C'est vrai que quand on met une heure de plus pour aller sur nos interventions, on a du mal à un peu avoir de l'empathie, mais on fait avec.
Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ?
Qu'ils continuent, mais bon, ça ennuie beaucoup de monde.
Quelque peu ennuyé aussi, Alain, à bord de son camion gris foncé, il soutient le mouvement des agriculteurs rassemblés non loin d'ici. Mais ces temps de trajet dans la région sont de plus en plus longs.
Bien sûr, ça rallonge. Et puis c'est embêtant pour les clients. S'ils ne comprennent pas, on va se faire engueuler par les clients. En plus, quand nous, on livre des produits alimentaires, il faut vraiment respecter les timings. Cette histoire, ça a tellement duré. Il faut que le gouvernement trouve une solution quand même. Quand même, ils gueulent pas pour rien quand même.
Des Franciliens qui se disent prêts à patienter le temps qu'il faudra, le temps que les agriculteurs aient accès à leurs revendications, nous ont dit d'autres automobilistes ici.
William Delesseux, au sud de Paris, avec des automobilistes ennuyés. oubliée alors que la doctrine n'a pas changé du côté du ministère de l'Intérieur. Gérald Darmanin vient de le répéter sur France 2.
Il n'est pas question d'évacuer les agriculteurs qui sont là. Ils sont d'ailleurs encadrés avec les policiers et les gendarmes pour éviter les drames de la sécurité routière qu'on a pu connaître au début du mouvement. La contrepartie, c'est qu'il ne peut pas être l'objet du blocage de Rungis, des aéroports ou de Paris.
Voilà, alors la région parisienne, certes, d'un côté, il y a aussi Lyon, où les agriculteurs resserrent l'étau entre A6, A7 et A43. Enfin, ce matin, les forces de l'ordre ont empêché le blocage du Grand Marché de Toulouse en délogeant les tracteurs de la Confédération paysanne. Trimé sans gagner sa vie, le malaise agricole se nourrit des prix toujours trop bas, demandés par les industriels et la grande distribution. C'est le dernier jour de leurs négociations pour 2024. Ensuite, ce sont les étiquettes qui vont parler dans les supermarchés, vérifiées par les agriculteurs en ce moment, comme ces producteurs de lait en visite chez Leclerc dans le Nord hier pour voir si le fruit de leur travail est vendu au juste prix. Reportage Claire Checaglini.
Au point de ralliement avant le contrôle, un jeune agriculteur met en garde.
Ils ont ordonné aux salariés de virer tout ce qui était étranger, donc on va sûrement pas trouver grand-chose.
Arrivé sur le parking du supermarché, d'une dizaine de tracteurs, puis déballage de la paille dans l'enceinte du magasin, sous les yeux d'une direction très fair-play.
Voilà, il faut que le travail soit récompensé, aucune polémique là-dessus. Je suis le dirigeant du magasin. On avait plus ou moins des infos, ouais, alors c'était ce matin ou cet après-midi, bon après ils font leur démarche tout à fait louable. Quoi.
Venu pour constater que Leclerc serait hors la loi, les agriculteurs entament le dialogue, preuve à l'appui.
J'ai une photo d'hier du lait à 75 centimes le litre. Depuis quelques années, il y a un accord que le lait ne doit pas être en dessous d'un litre, 1 euro du litre.
Celle-là, c'est une promotion exceptionnelle. Alors c'est la marque Repère. En rayon, il a 1 euro la bouteille.
Je vous dis que j'ai raison. Moi. On avance, on fait un tour.
Au rayon lait, les bouteilles en promotion de la marque distributeur sont introuvables.
En fait, juste attention à votre tête.
Merci.
Après avoir beaucoup insisté, les agriculteurs obtiennent que les stocks leur soient finalement ouverts.
C'est celui-là qui fait l'objet de la promo, normalement, 75 centimes le litre.
Celui-ci ?
Ouais. C'est pas que de lait, ils sont ici dans la réserve, on les trouve pas dans les rayons. Donc on avait quand même idée de ce qui se passait, quoi.
La direction n'a pas souhaité répondre sur la présence de ces packs de lait dans les stocks.
Reportage France Bleu Nord, signé Claire Checaglini. Voilà donc le tableau en arrière-plan du discours de politique générale de Gabriel Attal, qui s'est adressé hier aux Français de l'entre-deux, comprendre aux classes moyennes qui risquent de céder aux sirènes de l'extrême droite. Sa recette tient en trois mots: déverrouiller, désmicardiser, débureaucratiser. On va s'arrêter sur le désmicardiser qui concerne 17% des salariés français contre 12 il y a 3 ans. Ça devrait donc plaire au syndicat, Maxime Deps. Sauf qu'à la CGT, on reste sur ses gardes.
Le Premier ministre est certes volontariste.
Oui, j'assume de le dire, il faut désmicardiser la France.
Louable sur le papier.
Désmicardiser la France, évidemment, la CGT, de ce point de vue-là, partage, puisqu'il y a un tassement des salaires sans précédent.
Mais pour Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, derrière la formule, reste à préciser les intentions. Quand Gabriel Attal dit vouloir réformer le système, pour elle, attention.
Ce que nous savons, c'est que les économistes poissons pilotes du gouvernement, les députés d'Emmanuel Macron, chaque jour sortent de nouvelles mesures pour pouvoir désindexer le SMIC. Et demain, si on change le mécanisme d'indexation du SMIC, le SMIC arrêtera d'augmenter automatiquement comme les prix. C'est pour ça que nous voyons avec une grande inquiétude cette annonce-là qui résonne avec les mesures techniques dans les bagages de la Macronie.
Le nouveau Premier ministre qui dit aussi vouloir agir pour que les branches professionnelles qui continuent à rémunérés en dessous du SMIC remontent ces rémunérations. Là aussi, côté CGT, attendons.
Ça fait des années que ça dure, que la CGT et les organisations syndicales le dénoncent. Le gouvernement multiplie les gesticulations médiatiques, mais il ne nous dit toujours pas comment faire.
Ces branches qui devront jouer le jeu, je n'exclus aucune mesure pour y parvenir, a dit Gabriel Attal. Les syndicats l'attendent déjà au tournant.
Et du discours du Premier ministre, on retiendra aussi la suppression de l'ASS, l'allocation spécifique de solidarité pour les chômeurs en fin de droit qui basculeront au RSA, ou encore une future taxe lapin pour faire payer les patients qui n'honorent pas leur rendez-vous chez le médecin. Ensuite, l'Assemblée, elle a repris ses travaux et largement voté la liberté garantie pour les femmes d'avoir recours à l'IVG, formule retenue par le gouvernement pour entrer dans la Constitution. Prochaine étape, le Sénat, fin février, qui devra adopter la même formule à la virgule près pour que la Constitution soit modifiée après un vote du Congrès réuni à Versailles. Le président du Sénat, Gérard Larcher, n'y est pas favorable.
Il est 8h11, des 6 cycliste percuté sur les routes de la vallée de la Save en Haute-Garonne.
C'était l'an dernier. Les clubs de cyclotourisme s'étaient passé le mot secteur à éviter. Depuis, deux hommes ont été interpellés, jugés aujourd'hui à Toulouse, pour avoir sévi au moins 12 fois et blessé plusieurs de leurs victimes. Jean-Philippe Degnaud, il prenait un malin plaisir à les pousser sans raison particulière.
Les gendarmes ont d'abord étudié les quelques 300 lignes téléphoniques qui ont borné sur le lieu d'un des derniers accidents signalés l'été dernier, puis ils en ont isolé une trentaine appartenant à des individus déjà condamnés. Le logiciel Anacrim a fini le travail en désignant ces deux hommes dont les portables avaient également borné sur les autres accidents. Un travail de fourmi dans cette enquête rendue difficile parce qu'on ne connaissait pas au départ le mobile des délinquants, souligne l'avocat des cyclistes accidentés, maître Brice Zanin.
Je pense que le seul mobile, en fait, c'est la bêtise. Parce que, et ça c'est quasi toutes les victimes qui le disent, lorsque leur méfait accompli, ils repartaient morts de rire dans la voiture. C'est la bêtise et l'envie de passer un bon moment au détriment des autres. Certains se retrouvaient avec la clavicule cassée, le poignet fracturé, 25 jours d'ITT pour l'un, 14 pour l'autre. Ça commence à être assez conséquent.
Les deux suspects qui ont jusque-là reconnu avoir été présents sur les lieux des accidents mais qui nient en être les auteurs, comparaissent pour violence en réunion. Ils risquent jusqu'à 7 ans de prison.
Jean-Philippe Degnaud, à peine rentré avec sa médaille de champion d'Europe de handball, le joueur Benoît Kounkoud a été arrêté, placé en garde à vue dans la nuit de lundi à mardi pour tentative de viol dans une discothèque du 8e arrondissement de Paris. On vient de l'apprendre, c'est une confirmation d'une information de Valeurs Actuelles. La Chine, pays du gigantisme jusque dans ses faillites, le mastodonte de l'immobilier Evergrande, placé en liquidation lundi, est ainsi le promoteur le plus endetté de la planète sur fond de crise immobilière sans précédent, avec des projets à l'abandon à travers tout le pays. La Chine, les autorités chinoises sont donc en train de s'organiser pour tenter de terminer tous ces chantiers. Reportage à Pékin, Sébastien Berriot.
Il règne un silence presque total dans ce quartier de la grande banlieue sud de Pékin. Au milieu des habitations, un énorme projet immobilier est à l'abandon. 9 grandes tours de 15 étages, à moitié terminées. Aucune activité sur place, seul un gardien est là pour surveiller le site.
Le chantier est fermé et personne ne travaille ici. Il n'y a plus un seul ouvrier. Je suis tout seul et vous ne pouvez pas entrer.
Les habitants du quartier nous confirment que ces immeubles sans fenêtres font bien partie d'un projet immobilier lancé par Evergrande qui devait être livré normalement en 2015. Pour essayer de faire face à la faillite du promoteur, une société d'État a repris à son compte le projet, comme l'explique cet homme chargé de vendre les appartements.
La date de livraison des appartements n'est pas celle promise par Evergrande. C'est impossible à réaliser. On essaye de rattraper le retard. Nous garantissons que les logements seront livrés aux acheteurs. C'est juste la livraison qui est reportée.
Les finances publiques appelaient donc à la rescousse. Quelques immeubles ont pu être terminés, mais les moyens restent limités. À côté des tours, le promoteur avait prévu de construire un immense centre commercial. Pour le moment, le terrain est en friche, sans aucun bâtiment. Symbole de la crise immobilière sans précédent qui frappe la Chine. Pékin, Sébastien Berriot, France Inter.
56 milliards de dollars, la rémunération colossale d'Elon Musk accordée par le conseil d'administration de Tesla sur 10 ans en 2018 a été annulée par la justice américaine hier dans le Delaware après la plainte d'un actionnaire. Réaction du milliardaire sur X, n'installez jamais le siège de votre société dans l'état du Delaware. Enfin, partir sur un voilier pour communier avec la mer et le silence, un rêve de terrien, parce que sur l'eau, il y a parfois beaucoup de bruit, surtout quand on navigue sur une Formule 1 des mers. C'est Trimaran qui compose la flotte de l'Arkea Ultimate Challenge. Le trio de tête de la course est déjà à plus de la moitié de son tour du monde. Seul au monde, puisque les marins sont seuls sur les bateaux, mais dans un environnement extrêmement bruyant. Le niveau sonore est quasi insupportable. Jérôme Val a recueilli le témoignage de deux des skippers en course.
Ce sifflement strident, c'est le vent qui hurle dans les foils du bateau. Et plus il va vite, plus le bruit devient insupportable.
On a mesuré, hein, il y a des moments où on arrive à pas loin de 100 décibels. C'est presque dangereux pour la santé.
L'équivalent du passage d'un train. Ce vacarme permanent, c'est le quotidien de Thomas Coville. Il faut y ajouter les vagues qui s'écrasent contre la coque, les craquements du bateau et pas que.
Dès que je me coupe, des cliquetis, là vous avez une alarme. Hop, c'est un bon exemple.
assourdissant à tel point qu'Armel Lecléache lui porte parfois un casque anti-bruit.
Quand on enlève le casque et qu'on retrouve le bruit normal, on a l'impression d'être dans, je sais pas, une piste d'aéroport.
Le skipper breton confesse d'ailleurs avoir perdu de l'audition.
On entend un peu moins bien d'une oreille que l'autre. Ça, je pense qu'effectivement, à force de naviguer sur des bateaux bruyants.
Et pourtant, chaque bruit donne une indication pour détecter, par exemple, un problème. Mais Thomas Coville sait ce qu'il espère à la fin d'une course.
Il me manque le plus quand je navigue sur un bateau. C'est le silence, j'ai pas de silence. Quand je rentre à terre, dont j'ai le plus besoin, d'un silence absolu.
Une perspective encore lointaine, il reste encore au moins 3 semaines de course.
Voilà, le pauvre Thomas Coville qui a perdu de l'audition est aussi victime d'une légère avarie. Il est deuxième de la course, mais il va devoir faire escale en Tasmanie pour réparer son maxi trimaran avant d'attaquer la traversée du Pacifique Sud.
Merci Florence Paracuelos. 9h20, Léa Salamé reçoit la chanteuse et comédienne Elena Noguera. Elle lit en ce moment la correspondance de Frida Kahlo sur la scène de la Scala. Non, pardon, c'est à partir du 12 février.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
La météo, en revanche, c'est tout de suite. Marie-Pierre, attention au brouillard ce matin.
Oui, très nombreux, Nicolas, et très dense dans le sud-ouest. Par exemple, de Poitiers à Bordeaux, à Mont-de-Marsan, on ne voit pas à 100 mètres. Prudence sur le massif central, mais aussi sur les côtes méditerranéennes, la vallée du Rhône, en remontant vers le Val-de-Saône, le Berry, l'Alsace et la Lorraine. Et comme l'anticyclone se renforce à nouveau, ça piège également les nuages bas sur la moitié nord, alors qu'au sud, le soleil reviendra progressivement en Languedoc-Roussillon. Puis on a toujours les traces de la perturbation d'hier qui stagne entre les Charentes, le centre, en remontant vers le Grand Est, donnant localement quelques bruines dans une ambiance toujours contrastée. Au plus bas, il fait moins 3 à Dauphin dans les Alpes de Haute-Provence comme dans le Var. Alors qu'on relève 12 dans l'Aude à Gruissant ou dans l'Hérault, vous avez moins 1 Grenoble, 0 à Nevers, 2 à Caen, 3 à Calvi et 7 à Paris.
Et belle amélioration cet après-midi.
Et oui, le soleil va parvenir à dissiper les grisailles matinales et va s'imposer sur de nombreuses régions. On aura encore quelques passages nuageux qui persisteront au nord et annonçant une nouvelle perturbation pour la nuit prochaine. Et puis la douceur sera généralisée. On sera encore 3-7 degrés au-dessus des normales de saison pour ce dernier jour du mois de janvier. Au plus bas, il fera 9 à Dijon, 11 au Havre comme à Besançon, 12 à Paris, 13 à Lyon, 14 à Bordeaux, 16 à Ajaccio et même 19 à Soumoulou dans les Pyrénées-Atlantiques, en se rappelant qu'autant de bonnes journées en janvier, autant de mauvaises en mai. On va noter.
Oui, on va noter. On a le temps de voir venir. Merci Marie-Pierre, il est 8h18. Bon.